On parle BD ce matin dans les studios de Radio Royan Vercors en compagnie de Pablo Vasquez qui est illustrateur, graphiste et donc auteur de BD du territoire. Bonjour Pablo.
Bonjour.
Pablo est ici dans les studios pour nous parler d'une nouvelle BD sur laquelle il travaille. C'est une BD qui s'appelle La Fabrique et pour laquelle il réalise en ce moment une campagne de financement. Alors peut-être que Pablo, tu peux commencer par nous présenter ton projet.
Oui, eh bien mon projet c'est une bande dessinée dans un univers fantastique. Donc c'est une bande dessinée qui est d'un genre plutôt accessible dès 9-10 ans, très coloré et dont l'intention c'est de vous emmener dans une aventure tout en vous faisant réfléchir.
Alors réfléchir à quel genre de sujet ? Donc c'est un sujet très spécifique qui te tient à cœur, donc puisque c'est le tome 2 de la bande dessinée là sur laquelle tu travailles.
Oui, exactement. En fait, c'est une bande dessinée qui est née de, on va dire, l'imbrication de deux passions à moi. La première, c'est donc de faire s'évader les gens en les faisant réfléchir à d'autres choses que leur quotidien. Et la deuxième, c'est d'en créer justement ces mondes imaginaires que j'ai plaisir à créer dans des réflexions un peu plus profondes. C'est ce qui fait que les récits restent un peu dans les mémoires et qu'on a plaisir à s'y rappeler. Là, c'était le sujet du savoir-faire et de la dépendance au savoir-faire.
Comment ça t'est venu ce sujet ? Dans le document que tu m'as transmis, tu parles d'une prise de conscience qui t'est venue un jour sur ce thème.
Oui, c'est ça. Auparavant, je travaillais dans un autre domaine que la création artistique, puisque j'étais dans l'ingénierie des systèmes informatiques. Et je travaillais sur des choses très précises qui étaient des toutes petites briques d'un très grand ensemble. Donc il y avait une sorte de déconnexion entre ce qu'on faisait chaque jour et le but final de l'objet global auquel on participait comme une petite fourmi. Donc il y avait une sorte d'abstraction entre nos actions et le monde réel et ce qu'on pouvait fabriquer. Donc je me suis questionné beaucoup à cette période-là, c'était il y a une dizaine d'années, même avant le Covid et l'histoire des pénuries. Et bien avant le Covid, je me questionnais sur comment faire si les objets qu'on peut commander sur Internet, si les outils qu'on utilise tous les jours et qui sont devenus très complexes, très opaques, s'ils viennent à se briser, nous on est vraiment dépendants soit d'un réparateur, soit de complètement changer l'objet, ce qui est devenu malheureusement l'habitude maintenant. Donc en fait, l'opacité de ces objets, et c'est un peu la même chose qu'on peut relier maintenant aux intelligences artificielles, où c'est une boîte noire derrière laquelle se trament beaucoup de mécanismes qui sont complexes, et nous on a accès qu'à une sorte d'interface, et on est bien incapable de dire comment ça fonctionne et quoi faire si ça répond plus correctement.
Donc l'idée de ton projet, ce serait aussi de faire prendre conscience peut-être aux gens qui vont la lire de cette dépendance qu'on a, dont on n'est même pas conscient finalement ?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de que chacun puisse se questionner petit à petit dans l'aventure. En fait, on va suivre des personnages qui, eux, vont se questionner et vont avoir différentes réactions. Donc, peut-être que vous allez, si vous lisez cette BD, vous identifier à un personnage ou à un autre, parce qu'ils ont des caractères bien différents. Et une fois qu'il y a cette prise de conscience, qui peut faire consensus peut-être aujourd'hui, chacun réagit différemment. Il y en a qui veulent absolument apprendre beaucoup de choses, s'approprier à nouveau du savoir-faire. Il y en a d'autres qui veulent absolument maintenir ce système tel qu'il est, tellement il est pratique. C'est le côté un peu magique que j'essaie de retranscrire dans cette BD, c'est que c'est fantastique en fait. On appuie sur un bouton ici, devant notre ordinateur, et quelque chose de près d'un outil magnifique et neuf arrive jusqu'à nous, sans qu'on sache tout le chemin qu'il a parcouru, ni comment il a été fabriqué, et à quel coût aussi, écologiquement parlant. Donc, est-ce qu'on continue là-dedans ? Est-ce qu'on répare à tout prix ce système ? Est-ce qu'au contraire, comme certains, essaie de le mettre à bas ? En fait, c'est pas une bande dessinée qui donne un message comme une solution à suivre, mais c'est plutôt l'idée de faire se questionner les gens pour que chacun s'approprie une réponse, ou au contraire, fasse sien ce questionnement.
Et pour sortir un petit peu donc de la bande dessinée à proprement parler, du coup, toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu es conscient, auquel tu fais attention dans ton quotidien maintenant, ce rapport aux objets, et de savoir d'où viennent les objets que tu utilises, peut-être de limiter le nombre d'objets aussi que tu utilises au quotidien ?
Alors oui, du coup, c'est dur de faire ce genre de BD sans se questionner soi-même et se remettre en question. Moi, ça a été justement tout un chemin. Donc déjà, j'ai complètement arrêté ce travail d'ingénieur que j'avais à l'époque. Et c'est pour ça que je me suis vraiment orienté sur beaucoup plus de dessins et de créations. Ne serait-ce que parce que le circuit entre ce que je fabrique, ce que je crée, ce que je dessine, et les gens auxquels ça va servir ou les gens que ça va atteindre, on peut dire un circuit court culturel, on pourrait dire. Et j'en vois tout de suite les fruits, en fait. Je fais quelque chose avec mon pinceau et juste derrière, je sais à qui ça va profiter ou à qui est-ce que ça va atteindre. Et dans la pratique de la vie de tous les jours, j'essaie aussi, autant que possible, de consommer local et évidemment de questionner qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, avec la méthode, par exemple, bisous aussi. Je ne sais pas si ça te parle.
J'en ai déjà entendu parler, mais tu peux peut-être rappeler de quoi il s'agit.
Bah, c'est une méthode qu'une amie m'a fait connaître, qui est une méthode qui questionne nos actions au moment d'acheter. Donc, quand on est dans l'impulsion de vouloir obtenir quelque chose de nouveau, est-ce que on doit, c'est une suite de questions qui porte les lettres du mot bisou. Donc c'est le B de besoin. Est-ce que cet objet, j'en ai vraiment besoin? I, est-ce que j'en ai besoin immédiatement et je ne peux plus m'en passer? Est-ce que le S, c'est est-ce que je n'ai pas un objet semblable à la maison qui peut faire office à la place de ce nouveau? Le O, c'est me questionner sur son origine, où est-ce qu'il a été produit, d'où est-ce qu'il vient, comment il a été produit. Et le U, c'est est-ce qu'il va vraiment m'être utile? Est-ce que ma vie ne peut pas se dérouler sans cet objet? Donc j'essaie de garder en tête cette petite méthode qui m'a été transmise. Et elle est très utile aussi à transmettre à nos enfants, puisque nous, on a deux filles qui sont les cibles des publicités et de, en fait, cette injonction à acheter et avoir toujours du neuf, donc à laquelle il est dur des fois de résister.
Oui, quand on a des enfants et qu'ils ont des envies particulières, c'est difficile aussi de leur faire prendre conscience que parfois, oui, sur le moment, ça va être un grand plaisir, mais que finalement, ça implique trop d'aspects négatifs, mais qu'on ne voit pas forcément quand on a l'objet devant soi, effectivement.
Exactement. C'était aussi l'idée de cette BD, c'était de l'adresser à des lecteurs qui puissent être jeunes, en les attrapant par le côté de l'aventure et du suspense, pour qu'après d'eux-mêmes, ils en viennent à se questionner avec les questions de fond qui surgissent dans un second temps. Un peu comme une lecture du Petit Prince où, enfant, on va pouvoir le parcourir et profiter de la fable. Mais quand on va avoir une lecture avec un adulte ou en tant qu'adulte, il y a vraiment beaucoup d'autres choses symboliques qui se dégagent.
Une double lecture, oui. Et puis c'est vrai que le côté bande dessinée aussi joue bien ce rôle-là, même auprès des adultes, sur le côté un peu ludique des images, en fait, des dessins, qui permet aussi d'apporter le fond de manière peut-être un peu plus facile, même auprès des adultes.
Voilà, c'est ça.
Et alors, donc, je le disais, il s'agit du deuxième tome de la bande dessinée, ça s'appellera Les engrenages enroués. Et le tome 1 de cette aventure était déjà paru en 2023. Ça s'appelait, alors le titre m'échappe, mais tu peux peut-être nous en parler de ce premier tome.
Oui, le premier tome sorti en 2023, c'était La clé envolée. J'aime bien trouver en fait des assemblages de mots qui ont un sens un peu étrange et rigolo pour renouveler un peu la sémantique. Donc La clé envolée, puis Les engrenages enroués. Et donc il y aura une troisième et dernière bande dessinée pour compléter cette histoire que j'ai déjà écrite entièrement en fait et qu'il ne me reste plus qu'à illustrer.
Alors ce premier tome, tu nous l'as amené au studio, je l'ai entre les mains, donc il existe, il est disponible j'imagine à la vente. Où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors on peut le trouver sur mon site internet et celui de mon éditeur, donc pablovasquez.com, et chez Hypercute Édition. Donc c'est un petit éditeur indépendant grenoblois qui fait en grande partie des auteurs locaux.
Et est-ce que donc, c'est un tome que tu as financé de la même manière, puisqu'on va y revenir, tu es ici donc, parce que tu voudrais financer le tome 2 via une campagne de financement participatif? Est-ce que c'était déjà le cas donc, pour ce premier tome? Est-ce que ça a bien fonctionné?
Oui, c'est ça. Le premier tome, il a fonctionné grâce à une campagne de financement participatif. C'est-à-dire que les gens découvrent le projet, je leur montre des croquis, des dessins, des illustrations qui font déjà partie de l'aventure. Mais je ne réalise pas le premier tome en entier tant que je n'ai pas eu un certain nombre de précommandes qui me permettent, grâce à l'argent récolté, de travailler, d'être rémunéré pour ce travail de création.
On y reviendra plus en détail d'ailleurs sur donc les conditions de création aujourd'hui d'un auteur de bande dessinée. Mais simplement pour revenir peut-être sur l'accueil que le public a réservé donc à ce premier tome, est-ce que tu as eu quelques retours?
Alors oui, j'ai eu des retours plutôt agréables et enjoués. J'avais choisi de finir l'histoire du premier sur vraiment un moment de suspense assez terrible. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont maudit, mais j'ai pris ça de la plus positive des manières. Et donc beaucoup de gens qui attendent cette suite qui risque d'arriver au printemps prochain, printemps 2026.
Alors on y vient, donc la campagne de financement participatif est actuellement en cours. Comment est-ce qu'on peut t'aider, donc aider cette nouvelle bande dessinée à voir le jour ?
Alors pour m'aider, vous pouvez justement découvrir l'univers, voir si ça vous parle. Il y a pas mal de dessins et puis des petits extraits de l'histoire qui sont disponibles sur une page dédiée au projet. Donc c'est sur la plateforme de financement participatif Ulule. Donc l'adresse c'est ulule.com/lafabrique2. Tout attaché. Et là-bas, vous pourrez voir des extraits, des images, et puis un petit laïus qui explique le projet.
Et donc, en contrepartie, en fait, on achète tout simplement la bande dessinée qui sera disponible un peu plus tard, tu le disais, printemps 2026.
Exactement. En fait, on a essayé d'aligner donc, les prix des contreparties. Donc, c'est-à-dire, on peut se rendre sur la page et si on est convaincu, payer une contrepartie, c'est une vingtaine d'euros. Et ça correspond au prix public en fait, d'un album qui serait déjà sorti, plus le coût d'envoi jusqu'à chez vous. Donc, l'idée, c'est de faire confiance à un créateur et de soutenir la bande dessinée indépendante et de recevoir donc, dans quelques mois, après avoir suivi toutes les étapes de la création avec un petit peu des aperçus de ce qui se passe secrètement derrière la production d'une BD, chez vous, votre BD que vous avez soutenu et qui existe grâce à vous.
Alors, on en parlait un petit peu hors micro, c'est un moyen de financement qui est de plus en plus répandu, le financement participatif, mais ce n'est pas forcément une bonne chose, ça montre aussi la précarisation du métier. Est-ce que tu peux en parler un peu plus à nos auditrices et à nos auditeurs ?
Oui, alors je ne sais pas si beaucoup des auditeurs sont au courant de ça, mais quand on achète une bande dessinée ou un livre, en général, la part qui revient à l'autrice ou à l'auteur, c'est 10% du prix de vente. Donc si vous achetez une bande dessinée à 15 euros, qui est à peu près le prix actuel, il y aura 1,50€ qui reviendra à l'autrice ou l'auteur. Donc c'est très peu et surtout, c'est dans le cas où l'autrice ou l'auteur fait la bande dessinée toute seule. Donc par exemple, tous les dessins et toute l'histoire. Mais souvent, c'est un travail qui se fait en collectif, partagé entre, par exemple, la scénariste, la dessinatrice et la coloriste, qui peut être encore une troisième personne, plus les relections des textes, etc.
Là, c'est toi qui portes toutes ces casquettes, je crois, pour ce projet.
Oui, là, je me suis mis en charge de réaliser toutes ces casquettes en même temps. Voilà. Mais dans ce monde du livre, les auteurs sont donc pas très bien rémunérés. Et surtout, c'est un monde où, en France en tout cas, on a beaucoup de lecteurs, beaucoup de bandes dessinées qui sortent chaque semaine. Et il y a une guerre en fait à la visibilité dans les librairies et dans les grandes enseignes, qui est souvent gagnée par les plus énormes maisons d'édition. Donc les petites BD indépendantes et les auteurs moins connus ont du mal à faire leur place. Donc pour ça, le monde de la campagne participative, donc comme les plateformes de Ulule ou Kickstarter, sont une sécurité en fait. On peut présenter notre projet, recueillir des fonds, et si c'est le cas et s'ils sont suffisants, se lancer dans un projet avec beaucoup moins de risques de banqueroute.
Et ça te permet aussi, j'imagine, de financer ton temps de création, puisqu'il te faut beaucoup de temps donc, pour écrire, dessiner cette bande dessinée. Et c'est un temps où sinon, tu n'es pas payé.
Oui, c'est ça. Il y a des auteurs qui sont payés à l'avance, quand ils ont déjà beaucoup de succès et que les maisons d'édition ont confiance en eux. Mais la plupart du temps, on travaille entre 1 et 2 ou 3 ans pour une bande dessinée, selon notre efficacité, selon le projet. Les fruits de notre travail se viendront un peu plus tard, une fois que les BD sont en train d'être vendus.
Et alors cette campagne de financement participatif qui a lieu donc en ce moment via Ulule, donc ça a déjà commencé il y a plusieurs semaines, comment ça se passe ?
Eh bien ça se passe plutôt bien, je suis content parce que beaucoup de gens ont été convaincus par le projet, soit peut-être des anciens lecteurs qui reviennent trouver la suite, soit des nouveaux qui découvrent l'univers. En tout cas, ça avance bien, mais plus ça avance, plus je vais pouvoir passer du temps à peaufiner un bel ouvrage. Donc, on n'est jamais trop soutenu. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil.
Et où est-ce que tu en es actuellement dans la création de la bande dessinée ?
Alors, la bande dessinée, moi, je fais des bandes dessinées qui font à peu près 70-75 pages par ouvrage. Donc, c'est un peu plus que ce qu'il y a originalement dans les Astérix ou Tintin qui faisaient tous 46 pages. Moi, j'en suis à avoir fait les trois quarts du storyboard. Donc, c'est travailler sur la mise en page, comment on va mettre les cases les unes par rapport aux autres, quelle taille, quel cadrage, où va se situer le texte. C'est une grosse étape qui est vraiment le squelette de la bande dessinée. Donc j'en suis aux trois quarts du storyboard, cette partie-là. Ensuite, il y a la mise à l'encre. Donc on appelle ça l'ancrage, qui permet de dessiner vraiment les traits et les contours des personnages. Et il y a la troisième étape qui est donc la couleur. Et sur ces deux étapes-là, bah, j'en suis à un quart de la bande dessinée à peu près.
Et tu parlais tout à l'heure d'une reconversion. Donc toutes ces étapes-là dont tu nous parles, est-ce que tu as appris en autodidacte ou est-ce que tu t'es formé quelque part ?
Alors j'ai appris par moi-même, mais toujours en prenant soin d'aller prendre des cours ou de faire des ateliers auprès de professionnels pour être vraiment guidé et avoir une vraie solidité en fait sur les bases. Mais c'est un travail qui s'apprend et qui sur de longues années. Et moi, il m'enthousiasme parce que c'est un milieu où on n'a jamais terminé de se perfectionner en fait.
Et où on peut toucher à des univers très différents, puisque je vois dans tes précédentes réalisations qu'il y a des thèmes notamment très différents que tu abordes. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, en fait, comme j'ai un univers assez coloré et onirique, j'ai commencé par faire des contes pour enfants, donc des petits livres illustrés à l'aquarelle qui étaient accessibles dès 3 ans. Et j'ai aussi fait donc une bande dessinée en collaboration avec un ami, donc Lolo Pouette, qui est aussi auteur de BD, sur les premières années de la parentalité, pour expliquer qu'est-ce qui se passait dans la tête et le cœur d'un papa. Parce qu'il y a très peu de récits sur les parents, les pères qui arrivent dans la parentalité. Beaucoup de super récits sur les mamans. Et en y arrivant, on s'est rendu compte qu'il y en avait très peu côté père. Donc pour redonner l'envie de s'exprimer là-dessus et pour que les papas se saisissent un peu plus aussi de leur rôle, on a décidé de raconter nos anecdotes. Voilà.
Donc voilà pour tes précédentes collaborations. Et tu parlais donc notamment de cet ouvrage sur la parentalité, ce qui me permet de faire une petite transition. Donc tu es papa de deux petites filles et tu habites avec ta compagne du côté de Presles. Et donc tu n'es pas seulement dessinateur de bande dessinée, mais tu as également une autre casquette, puisqu'en famille, vous gérez un lieu qu'on commence à bien connaître maintenant, qui se situe à Presles.
Oui, tout à fait. C'est le lieu qui s'appelle La Musette, donc c'est la guinguette de Presles, qui a ouvert là en 2021. On a pris à cœur d'essayer de redynamiser un petit peu le village où il n'y avait plus de lieu pour s'arrêter et puis boire un petit coup. Donc on a voulu en faire un lieu très ouvert avec des concerts qui ont lieu toutes les deux semaines, mais que pendant la période sèche, puisqu'on n'ouvre qu'au printemps jusqu'à la fin septembre, étant donné qu'il n'y a pas d'intérieur.
Ça se passe dehors, donc il y a donc très souvent de chouettes concerts à la Musette Guinguette. Comment est-ce qu'on fait pour suivre le programme ?
Alors, on peut chercher sur notre ami internet La Musette, donc c'est L'Amusette, et vous trouverez sans doute la programmation des concerts à venir. Et sinon, sur les réseaux sociaux préférés, donc Instagram et Facebook, on est présent également.
Et la Musette proposera à nouveau un programme donc l'été prochain.
Oui, c'est ça, il y aura une programmation 2026 épicée qui arrive.
En cours de création, donc.
Exactement.
Et donc ça, c'était pour retrouver tous les détails sur la Musette et pour retrouver plus spécifiquement tes projets bande dessinée, comment est-ce qu'on fait ?
Eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver moi aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook en tapant Le Pueblo Art. L-E-P-U-E-B-L-O-A-R-T, ou tout simplement sur le site internet à mon nom, donc c'est pablovasquez.com.
Pablo Vasquez, donc illustrateur, graphiste et également auteur de bande dessinée, qui habite à Presles et qui était venu nous parler donc ce matin de son projet de bande dessinée fantastique, La Fabrique, jusqu'où irez-vous pour réparer le système ? C'est un récit d'aventure sur les thématiques du savoir-faire et de la dépendance aux objets, et vous pouvez participer donc au financement pour ce projet jusqu'à la fin du mois de décembre. Merci beaucoup Pablo d'être venu nous voir dans les studios.
Merci à vous et bonne journée.